Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Guide de la météorologie » de Günther D. Roth est un ouvrage de vulgarisation scientifique conçu comme un manuel de référence pour observer, comprendre et anticiper le temps. Dans sa 14e édition, revue et augmentée, il associe les bases physiques de la météorologie à des repères directement utiles pour lire le ciel et interpréter les bulletins. Le livre aborde les variables qui organisent le temps, notamment pression atmosphérique, température, humidité, vent, nuages et précipitations. Puis les relie aux situations météorologiques plus larges. Il traite aussi de phénomènes visibles tels que brouillard, éclairs et arc-en-ciel, ainsi que du cycle de eau, des méthodes de prévision et des enjeux climatiques, dont effet de serre. Cette ampleur distingue le guide des simples atlas de nuages ou des ouvrages limités au climat. Son objectif est de donner au lecteur des mécanismes de compréhension, afin que les observations quotidiennes ne restent pas une succession de faits isolés. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, relier pression, température et humidité au changement du temps, le guide repose sur les grandeurs fondamentales qui permettent de décrire état de l'atmosphère. La pression renseigne sur l'organisation des masses air et sur les configurations favorables à un temps plus stable ou plus perturbé. La température intervient dans les contrastes entre régions et dans les mouvements verticaux de air. Humidité, quant à elle, indique la quantité de vapeur disponible pour condensation, donc pour la formation des nuages et des précipitations. Le mérite de cette approche est de ne pas présenter ces paramètres comme une liste de définitions. Ils prennent sens par leurs interactions. Lorsque air se refroidit, sa capacité à contenir de la vapeur diminue et la condensation devient plus probable. Lorsque les différences de pression se renforcent, le vent constitue une réponse de air à cette inégalité. Comprendre ces liens aide à dépasser les interprétations intuitives mais inexactes, par exemple assimiler systématiquement chaleur à beau temps ou humidité à pluie immédiate. Roth propose ainsi une charpente scientifique accessible pour interpréter les données affichées par une station personnelle, un thermomètre ou un bulletin météo. Cette base physique est indispensable avant de chercher à prévoir localement l'évolution du ciel. Deuxièmement, lire les nuages. Les brouillards et les phénomènes lumineux comme indices atmosphériques. Une part importante de l'utilité pratique du livre tient à l'attention accordée aux signes observables. Les différents types de nuages ne sont pas seulement des formes esthétiques dans le ciel. Leur altitude, leur structure et leur évolution traduisent des processus de condensation, de stabilité ou de soulèvement de air. Le brouillard est également traité comme un phénomène météorologique à expliquer, plutôt que comme une simple baisse de visibilité. Il dépend notamment de l'humidité, du refroidissement près du sol et des conditions locales. Les arcs-en-ciel et les éclairs élargissent encore le regard, en faisant intervenir respectivement les effets de la lumière dans les gouttelettes et les phénomènes électriques associés aux nuages orageux. Cette diversité montre que observer le temps exige de combiner physique de l'atmosphère et attention visuelle. Le lecteur apprend surtout à distinguer un indice isolé d'une configuration cohérente. Un nuage ne garantit pas à lui seul une averse, mais sa place dans une évolution générale peut signaler un changement. Le guide donne donc un cadre pour observer avec méthode, sans transformer les observations de terrain en certitudes hâtives. Il fait du ciel un objet lisible, tout en rappelant implicitement la complexité des conditions réelles. Troisièmement, comprendre vents terrestres et marins dans leur contexte local et général. Le traitement des vents permet de relier les lois générales de la circulation atmosphérique aux expériences quotidiennes. Le vent naît de différences de pression, mais sa direction et sa force ne peuvent pas être comprises sans tenir compte de la rotation terrestre, du relief, du littoral et des contrastes thermiques locaux. En évoquant les vents terrestres et marins, le livre rappelle que la météo vécue ne dépend pas uniquement des cartes à grande échelle. Près des côtes, la terre et la mer ne se réchauffent ni ne se refroidissent au même rythme. Ces écarts favorisent des circulations locales dont les effets peuvent être sensibles au cours de la journée. Cette explication est utile aux observateurs de plein air, mais elle sert aussi à comprendre pourquoi une prévision générale doit être nuancée selon le lieu. Le relief peut canaliser ou modifier les flux, tandis que les surfaces urbaines, végétales ou aquatiques influencent les températures proches du sol. Roth ne réduit donc pas le vent à une flèche sur une carte. Il invite à considérer un système où les mouvements de air relient les échelles planétaires régionales et locales. Cette articulation donne au lecteur des critères plus solides pour comparer ce qui est annoncé avec ce qui est effectivement ressenti. Quatrièmement, du cycle de eau aux précipitations et aux épisodes météorologiques violents, le cycle de eau fournit un fil directeur essentiel pour comprendre la succession évaporation, condensation et précipitation. Le livre relie ces mécanismes aux formes concrètes que prend eau dans l'atmosphère, depuis les nuages jusqu'aux pluies et autres précipitations. Cette approche évite une vision statique de la météo, circule continuellement entre surface terrestre, mer et atmosphère, tandis que les conditions thermiques et dynamiques déterminent où et quand elle se condense. Cette base est particulièrement pertinente pour situer les interrogations contemporaines sur ouragans, inondations et sécheresses. Le guide ne semble pas présenter ces événements comme des anomalies indépendantes, mais comme des phénomènes qui nécessitent de comprendre énergie, humidité, circulation de air et disponibilité de eau. Il permet ainsi de distinguer les mécanismes météorologiques immédiats des questions climatiques de plus longue durée. Pour un lecteur non spécialiste, cette distinction est précieuse. Une tempête ou une forte pluie relève du temps observé, tandis que les tendances relatives à leur fréquence ou à leur contexte demandent des analyses climatiques. La valeur du guide réside dans cette mise en ordre. Il donne les notions nécessaires pour suivre les débats sans confondre événements ponctuels, risques locaux et évolution globale. En dernier lieu, prévision météorologique et changement climatique sans confusion des échelles, Roth consacre une place aux services météorologiques, aux techniques de prévision, aux changements climatiques et à effet de serre. Ce rapprochement répond à une difficulté fréquente, les mêmes mots, comme température ou précipitation, interviennent dans les prévisions de demain et dans les débats sur plusieurs décennies, mais les échelles ne sont pas les mêmes. La météorologie cherche à décrire et anticiper évolution de l'atmosphère sur des durées courtes en mobilisant observations et outils de prévision. Le climat concerne des régularités et des évolutions de long terme, en les présentant dans un même guide, sans les confondre. Ouvrage aide à comprendre pourquoi une prévision locale comporte une part de incertitude tout en reposant sur des méthodes de plus en plus sophistiquées. Il fournit également un cadre pour aborder effet de serre sans le réduire à une formule vague. Les gaz qui influencent le bilan énergétique de la planète relèvent de la physique atmosphérique, mais leurs conséquences se discutent sur des périodes et des territoires étendus. Cette double perspective fait du livre un outil de culture scientifique. Le lecteur peut mieux évaluer un bulletin quotidien, tout en disposant de repères pour comprendre les questions climatiques contemporaines et leurs liens avec les phénomènes extrêmes. En conclusion, Guide de la météorologie convient en priorité aux curieux qui souhaitent dépasser la consultation passive des applications météo aux observateurs du ciel, ainsi qu'aux pratiquants de randonnée, de navigation ou de photographie de nature. Il peut aussi servir de point de départ solide aux lecteurs disposant seulement de connaissances élémentaires. Son intérêt pratique réside dans la mise en relation des indicateurs accessibles, tels que nuages, vent, brouillard ou humidité, avec les mécanismes qui les produisent. Son intérêt intellectuel est plus large, il propose les distinctions indispensables entre phénomènes locaux, situations météorologiques, prévisions à court terme et changements climatiques. Cette architecture évite de juxtaposer des curiosités sur le temps et donne une compréhension progressive de l'atmosphère comme système dynamique, par rapport aux ouvrages centrés uniquement sur l'identification des nuages ou aux livres consacrés exclusivement au climat. Celui de Roth se distingue par son ambition de couvrir ensemble théorie et pratique. La présence des phénomènes optiques et électriques, du cycle de eau, des circulations locales, des services de prévision et de effet de serre en fait un guide transversal. Les éditions régulièrement révisées renforcent aussi sa pertinence face aux questions actuelles sur sécheresse, inondations et tempêtes. Ce livre sera moins adapté à un lecteur recherchant un traité universitaire très mathématique ou une analyse spécialisée du climat. En revanche, il constitue une référence généraliste particulièrement cohérente pour apprendre à regarder le ciel, interpréter les informations météorologiques et situer les enjeux climatiques dans un cadre physique rigoureux. Si vous souhaitez soutenir Günther D. Roth, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.